Les musiciens qui vont nous accompagner maintenant connaissent bien Cocorosi, notamment Alexandre Correa, qui est l'un des porte-parole avec Grégoire Pernou de Ramblin' Bombers. Peut-être serez-vous extrêmement connu dans peu de temps. Vous venez de La Chaux-de-Fonds et vous sortez un quatrième album qui s'appelle Hiro Onoda, qui paraît chez Little Records. C'est bien ça. Je crois que j'ai pas bien prononcé le nom d'album. Vous regardez
non,
le ciel.
Non.
C'est à peu près ça.
C'est bien.
Ouais. Ça veut dire quoi?
C'est le nom d'un soldat japonais. Mm-hmm. Qui est un peu célèbre, je crois. Il est resté tout seul dans la jungle.
Ah, c'est celui qu'on a découvert 20 ans après que la guerre soit finie.
Voilà,
et pensait que la guerre n'était pas
on a déjà remarqué qu'il y avait des touristes qui disparaissaient bizarrement dans la zone. Et puis tout d'un coup, on a compris qu'il avait continué son boulot de soldat.
Voilà. La recette d'un des disques précédents que vous avez enregistré, vous en êtes à votre quatrième album, c'est une semaine de jam enregistrée au Bikini Test. C'est une méthode extrêmement luxueuse qui était un petit peu en cours dans les années 70 et 80. Les méga groupes louaient des studios pendant des mois entiers, et puis faisaient des jams improvisés, et puis la musique se fabriquait comme ça, un petit peu sur le vif et avec les instruments qui servaient à enregistrer. Alors qu'aujourd'hui, il y a un gros travail de préparation, tout le monde a un petit peu son home studio à la maison, et on va dans le vrai studio, entre guillemets, si on y va d'ailleurs, pour enregistrer le définitif. Là, vous avez fait comment pour mitonner le quatrième album? De la même manière?
Non, Grégoire. C'était un petit peu différent. On avait plus des morceaux déjà, pas encore rodés, mais qui étaient un peu structurés, disons.
Mais qu'est-ce que ça apporte, par exemple, pour l'album précédent, de partir sans rien dans les poches, si j'ose dire?
C'est drôle.
Et de tout concevoir un peu sur place, quoi.
Essayer de garder un maximum de spontanéité, je pense. Faire le plus sur l'instant. Enfin, on entendait Cocorosi avant qui disait que leur truc c'était de s'inscrire dans le présent. C'est peut-être un peu la même idée.
La même démarche
en fait,
pour vous, d'accord.
Mais je ne suis pas sûr qu'on soit posé énormément la question.
Non,
on s'est dit c'est chouette, on peut avoir un bikini l'été. Et puis
autant en profiter, bien sûr.
Voilà, et puis en échange, on a fait un concert, je crois, c'était ça l'histoire.
C'est un endroit qui est empreint de musique, ce qui ne cache rien quand même, ça.
Ouais. Hein,
votre pochette, on parlait de rétro tout à l'heure, est aussi assez rétro, on se croirait là carrément dans l'univers du vinyle. D'ailleurs, vous sortez parallèlement des vinyles.
C'est la première fois qu'on sort un CD. Ouais.
Les deux albums précédents étaient qu'en vinyle, en fait.
Pourquoi?
Pour la beauté de l'objet, et puis pour... Le tout premier disque qu'on a fait, on a fait que des CD, puis on est tellement déçu quand on reçoit le truc,
cette petite chose
en plastique qui ressemble à rien, tandis que quand on reçoit un vinyle, on se dit « ah ouais, ça fait quelque chose ». Quoi.
Donc vous êtes dans une démarche totalement anticommerciale, dans la mesure où les gens, pour écouter des vinyles aujourd'hui, doivent aller à la cave ou au grenier et chercher leur lieu de torrance ou tourne-disque pour pouvoir mettre la chose sur des amplis.
Mais de nouveau, moi j'ai l'impression qu'on ne se pose pas énormément la question. Nous, on fait un disque qui est censé nous plaire à nous, puis nous on aime bien acheter des vinyles, on trouve que c'est beau, et puis on fait bêtement un vinyle. Et puis là
c'est une concession extrême que vous faites.
C'est une grande concession commerciale.
Vous souffrez beaucoup de sortir un CD?
On est torturé, d'ailleurs on a dû raturer la petite pochette.
Je vois, c'est même marqué stéréo à l'ancienne, à droite de la pochette. La scène musicale de La Chaux-de-Fonds, qu'est-ce qui s'y passe?
Il s'y passe plein de choses. Il y a pas mal de groupes. Vous avez reçu Arabelle, il me semble, l'année passée.
Ouais. Qui participe d'ailleurs à ce projet.
Participe à ce projet. Il y a le Watchmaking Metropolis Orchestra qui fait plein de concerts en Suisse allemande et un peu partout.
Deux membres des Ramblin' sont d'ailleurs des...
Et ils vous ont accompagné, vous êtes venus en force.
Ouais, on est venus.
Voilà, mais c'est des membres des Ramblin' qui jouent aussi dans le Watchmaking Metropolis Orchestra.
Et puis il y a un tas de groupes, mais je pense comme partout un peu, un tas de groupes dans tout style...
Où est-ce que vous êtes, vous, les Ramblin' Bombers, dans cette scène chaux-de-fonnière? Vous êtes à part? Vous êtes à l'intérieur?
On est dans les vieux.
Ah, mais ça veut rien dire.
Je sais pas si elle est si organisée que ça. On est...
Chacun tire un peu de son côté.
Mais chacun fait simplement de la musique, je crois, sans chercher beaucoup plus loin.
Ouais, vous avez l'art de la sagesse, Alexandre Correa. Hein. On va vous écouter, vous découvrir sur cet album. Hiro Onoda, c'est le titre de l'album. Je rappelle qu'il est distribué par Little Record. Et on va écouter un thème qui s'appelle Tequila Sunrise, qui est un instrumental, parce que la voix vient et va dans votre projet. On ne va pas l'écouter en entier, parce que c'est un long titre. Mais juste quelques mots sur ce thème qu'on va écouter.
C'est un thème qui est assez incompris souvent. Il y a pas mal de gens qui ne l'aiment pas du tout. Mm-hmm. Et puis, c'est Je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier à dire. Comme je vous disais avant, on fait des choses sur le coup, sur l'instant, sans se poser forcément la question de savoir s'il a un sens ou pas. Mais on se disait que c'était un espèce de morceau de croisière, un peu stupide, un peu kitsch. Quoi.
Mais on va l'écouter. Mais je vous posais la question de savoir si cette espèce d'immense naïveté qui semble accompagner votre démarche musicale est une bonne ou une mauvaise chose. Hein, c'est légitime. On vous écoute. Découvre la musique de Rumbling Bomber. Je rappelle qu'ils viennent de la Chaux-de-Fonds et qu'ils viennent de faire paraître leur quatrième album qui s'appelle Hiro Onoda. Je vous posais la question tout à l'heure de savoir si cette naïveté qui a l'air assez immense et tout à fait honnête de votre part de faire de la musique en se disant on fait de la musique sans trop se poser de questions est une bonne ou une mauvaise chose. Alexandre.
Alors j'en sais rien si c'est une bonne ou une mauvaise chose, c'est que moi j'y tiens énormément en tout cas. Pourquoi est-ce que j'y tiens, je sais pas. Mais c'est tellement. Mais
c'est pas bien d'avoir à un moment donné peut-être un petit peu de recul par rapport à ce qu'on fait en se disant mais tiens.
Non mais là on a du recul par rapport à notre premier album.
Oui mais ça fait c'est déjà bon. 4 albums que.
Mais justement, mais au 8e on aura du recul par rapport d'accord, à celui-là.
Donc on parlera chaque fois. Quand on vous interviewera, on parlera du 4e album voilà. Précédent. Hein. C'est une musique des possibles, dites-vous, qui demande des pourquoi pas et ensuite des comment. Qu'est-ce que ça signifie cette phrase mystérieuse qui apparaît sur votre dossier, Grégoire?
Ça, c'est Miguel. Difficile question, ça. C'est
vous qui l'a posé, hein.
Ouais, mais c'est... Je sais pas.
Où mène les pourquoi, par exemple.
En fait, ce qu'elle sous-entend, cette phrase, elle ressemble à la musique qu'on fait dans le sens où elle est un peu, en même temps, énigmatique. Enfin, elle pose des questions sans en poser, en fait. Elle ouvre des espèces de parenthèses, elle laisse un peu à chacun... Le choix en fait, il n'y a pas de direction à prendre.
Parce que quand on écoute attentivement votre CD, ce que j'ai fait tout à l'heure, on s'en rend, là on écoute quelque chose d'assez sage, vous l'avez signalé tout à l'heure, musique de croisière, il y a des choses beaucoup plus éclatées, beaucoup plus déchirantes, des choses qui interpellent beaucoup plus. Est-ce que le comment sert à cadrer justement ces espèces de délires que vous autorisez justement sur ce disque?
Moi il me semble que si on fait cette musique, c'est justement pour s'autoriser des délires sans forcément les cadrer. Le seul cadre qu'on donne, c'est que... qu'on ait du plaisir à faire ça les cinq ensemble, et puis il me semble que c'est déjà un cadre suffisamment contraignant pour pas qu'on s'amuse à en mettre beaucoup d'autres. Après, on a des cadres tout à fait bêtes et simples, qui sont des questions du temps, d'argent, etc. Ouais. On ferait beaucoup plus de choses si on avait plus de temps, plus d'argent, mais il me semble que le seul cadre qui est vraiment important pour nous, c'est de... qu'on sente les cinq bien dans notre musique, simplement.
Autre question qui laisse un petit peu en suspens les choses, c'est vous dites que le groupe est composé de paysagistes. Ça veut dire quoi?
Ça veut peut-être dire simplement que on fabrique petit à petit, au lieu d'avoir une idée et de partir dans une direction, on construit petit à petit en mettant plusieurs éléments pour essayer d'avoir un résultat qui est à peu près qui ressemble à quelque chose qui soit si possible joli. Quoi.
Alors il y a pas mal de collages hein, dans votre musique, il y a des emprunts involontaires la plupart du temps par rapport à ceux qui ont créé les matières originales. Vous faites du sample, vous avez samplé plein de gens, notamment Orson Welles, notamment la Radio Romande, d'après ce que j'ai cru comprendre. Pourquoi? À quoi servent ces collages? Comment vous les... Parce que c'est pas du tout du sample où on met une boucle qui sert à créer un morceau en piquant un rythme à quelqu'un d'autre. C'est vraiment des événements ou des émotions que vous laissez passer là.
Bêtement et pratiquement, ça nous a aidé à pas utiliser de voix parce qu'on n'est pas très bon dans les voix. Donc ça a été quand même un des aspects importants. Et puis moi j'aime bien bidouiller les petits sons, les petits samples.
Si je peux ajouter quelque chose, il y a un truc que nous on aimerait beaucoup faire, c'est de la musique de film. Il y a pas mal de samples qui viennent de films en fait, et puis c'est peut-être un rapprochement involontaire,
un clin d'œil en tout cas.
Et puis ça permet aussi de, je trouve en tout cas, de faire ressurgir des petits trucs du quotidien, comme un morceau qui s'appelle Eric Moussambani ou Hop Moussambani, qui vient de ce nageur. Qu'a nagé le 100 mètres au JO tout seul. Ouais. C'est des petits trucs comme ça pris dans la vie de tous les jours qui sont un peu bizarres, un peu inédits. Quoi.
Ouais. Est-ce que vous êtes un groupe moderne?
Moi je dirais non. Mais...
Moi je vais dire oui. mais à nouveau, moi j'ai l'impression que qu'on, Je ne sais pas si on s'est vraiment posé. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dépassé. Hein,
est-ce que vous faites de la musique d'aujourd'hui, si je peux poser cette question
sur cette forme?
C'est à vous que je pose cette question, justement, puisque vous êtes dedans.
Alors, au niveau de la scène suisse, moi, j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu à côté de la plaque, quand même. Maintenant, oui, c'est de la musique d'aujourd'hui.
Vous me parlez de l'héritage des fous qu'on va écouter?
C'est un texte que j'ai écrit ou que j'ai chanté avec la chanteuse d'Arabelle. C'est le seul titre en français du disque. Oui. Et puis c'est un des seuls qui a des paroles. Que dire de plus?
On va se le mettre sous l'oreille. Merci infiniment Grégoire et Alexandre d'être venus nous parler de ce groupe, les Rumbling Bombers. Ils sont de la Chaux-de-Fonds. C'est leur quatrième album, Hiro Onoda, distribué par Little Records. Les voici sur les platines de Paradiso.